Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
François Eckhall, le fondateur de Fipeco.fr. On évoquera la facture pour le contribuable de la SNCF en 2021 dans un instant. Il est professeur d'économie à Paris 1. Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris Nord. Économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie. Christian Poyot, PDG de Micropole, président de la commission Mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF. Réaction de Bull Market qui me dit « Il est plus facile d'être universitaire que plombier ou chef d'entreprise. » Votre invité, Dany Lang, ne peut pas dire que la fiscalité française n'est pas déterminante dans l'investissement. Ah oui, et donc, oui, il faut taxer les entreprises, augmenter le SMIC, puis 30 secondes plus tard, nous dire qu'il faut des incitations fiscales pour l'investissement. En France, on a trop souvent... Alors, il y a quelqu'un qui, en France, on a trop souvent préféré la redistribution à l'augmentation du niveau de vie. Du coup, dans les classements, cela régresse sans arrêt. C'est Sam qui écrit ça. Et il y a Paul qui m'écrit pour les finances de l'État et le discours sur l'assistanat. Ce ne serait pas mieux de réduire les inégalités primaires plutôt que de compter sur la redistribution?
Ah bah, c'est ce que je disais. Il faut les deux, hein, mais pour moi, la mère de toutes les batailles, c'est celle-là aujourd'hui.
Le problème, c'est que la réduction des inégalités primaires, les outils pour y parvenir.
Oui, bah, c'est le salaire minimum, c'est le point d'indice des fonctionnaires, etc. Oui.
C'était Philippe Martin qui, François Eckhall, nous dit jeudi dernier que ça s'est vu à toutes les époques, dans beaucoup de pays, il faut oser l'impôt exceptionnel sur les plus aisés, parce que la facture doit être partagée. La facture, elle est de 3 à 4 points de PIB. L'État en a assumé plus de la moitié aujourd'hui, et il nous disait, pendant un an ou pendant deux ans, eh bien, la tranche marginale à 45% de l'impôt sur le revenu, elle passe à 55%. Qu'est-ce que vous en pensez ?
D'abord, il y a une erreur.
Il y a une erreur 2.
L'erreur, c'est que la tranche marginale de l'impôt supérieur de l'impôt sur le revenu est à 45%. Elle n'est pas à 45%, il y a deux tranches au-dessus, à 48 et à 49. Pourquoi ? Parce qu'en 2012, on a créé une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc avec ces deux tranches qui s'ajoutent au barème apparent, mais qui existe bel et bien. Et dans le Code général des impôts, ce qui est écrit, ce qui est toujours écrit, c'est que ces deux contributions exceptionnelles sur les hauts revenus seraient maintenues jusqu'à ce que le déficit public soit nul.
Oh, oui, c'est écrit comme ça.
C'est écrit comme ça dans le Code des impôts. En 2012, mais parce qu'en 2012, on avait une loi de programmation des finances publiques, programme de stabilité, etc., qui prévoyait un déficit public nul. Ça devait être en 2016. Ça. Donc c'était un impôt exceptionnel supposé durer 3 ans à peu près. Voilà. Mais
c'est
le problème des impôts exceptionnels, c'est ça le problème des impôts exceptionnels. Économiquement. Un impôt exceptionnel qui vraiment vous tombe dessus, dont on est absolument sûr qu'il ne reviendra jamais, etc. Les économistes aiment bien parce que c'est totalement forfaitaire. Ça change pas les comportements. Voilà. Vous êtes surpris, donc vous n'avez pas modifié vos comportements préventivement et vous êtes persuadé que ça ne reviendra pas. Donc vous n'avez pas de raison non plus de modifier après. Le problème, c'est que
est-ce que c'est crédible? Vous n'avez pas acheté une maison dans le Delaware dès qu'on vous l'annonce.
Le problème en France, c'est que les impôts exceptionnels, pour moi, c'est pas crédible. Voilà.
C'est pas crédible à l'exemple.
On avait la CRDS qui avait été créée pour financer la CADES. Tout ça a été
provisoire. La CRDS était aussi exceptionnelle.
La vignette qui a duré plusieurs décennies.
La vignette a disparu quand même.
Elle a disparu.
La redevance télé aussi a disparu.
Oui, au bout de 40 ans. C'est pas forcément la meilleure des idées.
Non, non, mais bon.
Effectivement, taxe d'habitation. Revenu impôt exceptionnel, je suis assez d'accord. Ça a tendance à devenir permanent et il vaut mieux avoir le courage politique, mais c'est plus compliqué d'assumer une hausse de la tranche supérieure, voire d'ajouter des tranches. Pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas des tranches ? Moi, je suis dans la tranche à 30%, je n'ai aucun espoir un jour de changer de tranche. J'aimerais bien un jour aller dans une tranche supérieure et payer plus d'impôts. Moi, mais l'impôt, c'est sa participation à la citoyenneté. Je suis coincé dans la tranche à 30%. Moi, je me souviens que dans cet affreux pays communiste que sont les États-Unis d'Amérique, ils ont été à un moment à une tranche supérieure à 90%, avec des incitations fiscales qui faisaient que si vous remettiez l'argent en investissement dans les entreprises américaines, vous ne rentriez jamais dans ces 90%. C'était bien fait. En France, sous le général de Gaulle, on était à 87,5%. Pourtant, c'était pas non plus le roi des communistes. Le général de Gaulle, on était à 87,5%. Alors, je dis pas qu'il faut revenir à 87,5%, mais moi, je pense qu'il faudrait assumer d'avoir plus de tranches.
Une sixième et à 55.
D'avoir plus de tranches qui permettraient à des gens comme moi, des classes moyennes, un jour, d'espérer de payer plus d'impôts en pourcentage de mon revenu et qui permettraient aux plus aisés qui sont... Mais parce qu'il y a quand même un sujet aujourd'hui, hein. C'est si on regarde les inégalités de patrimoine, on a les 50% qui sont les moins bien lotis, qui ont moins de 5% du patrimoine, et on a les 10% qui, les mieux lotis, qui ont 25% du patrimoine.
Là, on est en train de parler d'un nid de quelque chose.
Mais moi, j'aimerais bien accéder un jour au patrimoine, et j'aimerais bien un jour payer plus d'impôts, et donc avoir plus de tranches.
Alors là, on parle vraiment d'une situation exceptionnelle en raison du choc énergétique que nous vivons. Vous voulez réagir là-dessus? Réagissez là-dessus.
Premièrement, j'ai dit il y a quelques instants là que sur la subvention sur l'essence, elle devrait être ciblée sur les gens les plus modestes.
Donc, en janvier, c'est le cas.
Voilà. Bon, non, mais ceci pour dire on doit d'une manière ou d'une autre contribuer à l'effort national et au pays en fonction de ses revenus. J'ai pas de souci par rapport à ça. Après, moi, c'est même plus que ça m'agace. De toute façon, c'est en France impôt. C'est la seule réponse qu'on s'est trouvée. Comme ça a été dit à l'instant, de toute façon, c'est les impôts provisoires qui durent 40 ans, d'accord? Donc, tout le monde rigole sur le sujet. Après, encore une fois, comparons ce que font nos petits copains. Soit on est sur la planète Mars, on est tout seul, mais mettons 99% d'impôts. D'ailleurs, si on devient un pays communiste, hein, on n'est pas loin d'être ça, d'ailleurs.
Mélenchon, au-delà de 400 000 ou 300 000,
voilà, c'est ça, exactement, il était à 100%. Pour regarder les programmes de la France insoumise. Soit on regarde plus sérieusement ce que font les autres pays. Voilà. Est-ce qu'on est en France où la taxation sur les revenus, le capital, est la plus faible d'Europe? Certainement pas. Encore une fois, moi, j'ai pas les chiffres
précis. Capital, on est un peu au-dessus de la moyenne européenne. Revenus.
Les plus forts, bon. Voilà. On nous parle souvent aussi des sujets d'héritage, d'accord. Mais regardons aussi comment sont taxés, et c'est pas mon sujet de prédilection, hein, mais comment sont taxés les héritages dans les autres pays. On est aussi en France les plus taxés. On est quasiment les plus taxés sur tout. Donc, on veut en rajouter encore. Mais allons-y.
Il y a sûrement une note de Fipeco qui décortique le niveau de prélèvement obligatoire en constatant effectivement que. Alors, sur le revenu, ce qui est tout à fait. Non, mais ce qui est extraordinaire sur l'impôt sur le revenu, dans la plupart des pays, ils rapportent entre 8 et 9% du PIB. Mmh. En France, c'est 3,5, je crois, François. Mmh. Et pourtant, c'est l'impôt le plus mal vécu parce qu'il est payé par une minorité. Et alors, ceux qui payent, ils payent.
Oui, c'est quoi le nombre de gens qui payent l'IRPP? C'est moins de
18 millions. 18 millions de foyers.
Un peu moins de la moitié.
18 millions de foyers sur 20.
Et si on réfléchissait sur l'optimisation des finances publiques, parce que ça, sur le sujet, là, on n'entend jamais ça.
Ça fait quand même un certain nombre d'années que. Au nom de l'optimisation des finances publiques, on fait réforme sur réforme, qui font qu'aujourd'hui, par exemple,
il y a le siège. Et vous avez une manette de l'autre côté là.
Il y a mon siège qui vient de s'effondrer.
Oui, non, mais vous allez, donc, vous allez pouvoir le
remonter. C'est sur le mot réforme publique. Vous voyez.
Mais ça fait des années qu'on nous fait des coupes dans les dépenses publiques, au nom de l'optimisation, au nom de ceci, au nom de cela.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, au passage, est toujours le plus important.
Au passage, on a une bureaucratie hallucinante à l'université. On passe notre temps à remplir
les paperasses
pour demander l'autorisation d'aller aux toilettes. Je ne suis pas d'accord parce que là, franchement, on baisse dans les classements de Shanghai au nom de l'augmentation, de la montée dans les classements de Shanghai, parce que tout simplement, on nous fait faire des formulaires, on passe notre temps à demander de l'argent. Enfin, moi, des fois, j'ai l'impression d'être au feu rouge et de faire la quête, quoi. Donc, moi, je ne suis plus d'accord
avec tous les profs d'université le disent, Daniel Lang, tous.
Oui, mais d'accord. Alors, justement, arrêtons de parler d'optimisation des finances, parce que c'est ça qui nous amène, cette bureaucratie qui nous tue, notamment dans le
public. Mais s'il est évident qu'il y a des dysfonctionnements à l'université...
Là, non, mais je vous parle de la bureaucratie, Nicolas Dose.
Vous levez un peu et vous appuyez sur la manette et il va se relever le tabouret.
Ça m'était jamais arrivé.
Les coupes dans les finances publiques, j'ai pas l'impression qu'on coupe comme des malades dans les finances publiques, François Bécal.
Ça se saurait, non?
On optimise, c'est-à-dire on rajoute de la bureaucratie à tous les étages.
La bureaucratie,
la bureaucratie, c'est un thème... Dans l'ensemble des trois fonctions publiques.
Oui, parlons des trois.
Voilà, les trois fonctions publiques.
Donc c'est État, hôpital et collectivité.
État, hôpitaux et collectivité. les emplois consacrés, je dirais, aux fonctions administratives, c'est à peu près 10%, hein, c'est pas plus. Aussi bien d'ailleurs, parce qu'on cite par exemple dans les hôpitaux, ou même d'ailleurs aussi dans les hôpitaux, par exemple, le chiffre de 30%. Dans le chiffre de 30%, c'est 30% de non-soignants. Mais non-soignants ne veut pas dire administratif. Un non-soignant signifie aussi des emplois de techniciens qui vont s'occuper des ordinateurs, des travaux électriques.
C'est pas ça, je dis les vrais administratifs,
c'est 10%, c'est pas
Mais en Allemagne, c'est combien ce chiffre? Je crois que c'est 20%.
Hein, non, mais alors justement, je sais, parce que c'est moi, enfin, je contribue à... En Allemagne, le 20-25%, c'est l'équivalent du 30% français. Voilà, donc là-dedans, on met non seulement les administratifs, mais on met aussi les emplois de techniciens, d'ingénieurs, etc., qui sont là aussi pour... enfin, dans les hôpitaux, dont on a besoin aussi. Alors certes, ça montre que globalement, sur l'ensemble de ces emplois, en effet, il y en a moins en Allemagne, moins dans les autres pays. C'est ce que je veux simplement dire, parce que, enfin, dans le discours politique, hein, c'est pas seulement des ronds de cuir.
Hein. Les ronds de cuir, il en faut aussi.
C'était pas mon propos. Voilà. Mon propos, c'était de dire qu'on refile de plus en plus d'administratifs au personnel hospitalier, à toutes les personnes au nom de l'optimisation des finances publiques. Donc, franchement, si c'est pour nous rajouter une couche de bureaucratie supplémentaire, non merci.
Le problème de la complexité administrative en France, il y a même un candidat à la présidentielle qui en avait fait son cheval de bataille, même s'il n'est pas allé au bout de l'histoire. Il y a deux chiffres qui me viennent en tête. Le premier, c'est quand vous prenez le budget de l'éducation nationale, 51 ou 52% payent les enseignants et 49% payent la machine.
Au nom de l'optimisation, etc.,
d'accord,
on refile de plus en plus de procédures, de paperasse, de machin, de choses. Franchement,
vrai,
on passe notre temps. Dans la recherche, on ne peut plus travailler
tranquille. Au final,
tout le monde le dit.
Franchement, je vous crois à 100%, vous avez tout à fait raison, mais est-ce qu'au final, on a diminué cette part de 49% là? Non, rien du tout.
C'est au nom de ça qu'on l'a fait.
Le FMI, dans ses recommandations de la semaine dernière, dit qu'il faut baisser le nombre de fonctionnaires dans le personnel non enseignant de l'éducation nationale, par exemple.
Quand on regarde, là on a cité les hôpitaux, on vient de citer également l'éducation nationale, qui sont des sujets majeurs pour tout un chacun. Encore une fois, quand on compare par rapport aux standards européens, à chaque fois on a moins d'enseignants face aux élèves et on a moins de soignants face aux malades, parce qu'il y a une part de non-soignants ou de non-enseignants qui est plus forte que dans tous les autres pays. Donc ça veut dire que c'est mal géré. Ça veut dire que c'est mal géré, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
En tout cas, cette répartition du budget de l'éducation nationale 49-51, c'est 80-20 en Allemagne. Vous avez 20% pour payer la machine. Voilà. Bon, on va faire la SNCF parce que le temps file. Alors, j'ai déjà des réactions, alors qu'on n'en a pas encore parlé, François Eckhall. Éric m'écrit, combien la SNCF rapporte aux contribuables par ses prestations? Beaucoup plus que son déficit. Quand la SNCF s'arrête, la France s'arrête. Vous avez publié... dans Fipeco.fr, c'est la dernière note d'actualité, ce chiffre actualisé de l'ensemble des subventions et des aides à l'investissement, qu'elles viennent de l'État ou des régions, la SNCF perçoit, et on est à 18,5 milliards d'euros.
Alors, c'est un bilan comptable de ce qui est versé par l'État et les régions à la SNCF. Il y a trois catégories de dépenses. Il y a une dizaine de milliards qui sont versés pour couvrir les frais de fonctionnement de la SNCF, essentiellement par les régions ou Île-de-France Mobilité. Il y a à peu près 5 milliards de subventions d'investissement versées par l'État ou les régions, et 3 milliards de subventions de l'État d'équilibre au régime de retraite des cheminots. Voilà, ça fait à peu près 18 milliards. Maintenant, pour répondre à la question, il est justifié que l'État ou les collectivités locales financent en partie le transport ferroviaire. D'ailleurs, ça se fait partout. Pas parce que le transport ferroviaire rapporte des recettes à l'État, parce que les recettes, la SNCF paye des impôts, je dirais des impôts de droit commun, comme tout le monde, mais les recettes spécifiques venant du transport ferroviaire, il y en a très peu, hein, financièrement. Ça se compte, c'est 200 ou 300 millions de redevances, d'impôts, c'est très faible. Une fois de temps en temps, la SNCF verse un dividende à l'État, mais c'est tout à fait exceptionnel, donc il y en a très peu. En revanche, les vrais avantages qui doivent être être mise en place. Et c'est là toute la difficulté, c'est ce que les économistes appellent des externalités. C'est-à-dire le fait que si le transport ferroviaire se développe, il y a moins de gens sur les routes, et donc il y a moins d'émissions de carbone, ou il y a moins d'accidents sur les routes. Le problème, c'est que ça, c'est très très difficile à estimer. Moi, franchement, il y a des études qui sont faites, mais qui permettent pas de répondre à cette question, en réalité. Et donc, simplement, moi, par exemple, si on regarde ce qui se passe dans les autres pays, à nouveau, on s'aperçoit que le transport ferroviaire est moins subventionné, rapporté au nombre de passagers, kilomètres, enfin, en prenant ce genre d'indicateur, que dans les autres pays. Bon, alors peut-être que les autres n'en font pas assez, mais par ailleurs, quand je regarde ce qui est fait en France, bon, bien sûr, alors, je vais prendre aussi un exemple d'actualité. Là, le président vient de nous annoncer qu'on va
créer de région.
10 RER dans les régions. Moi, ce que je voudrais voir, là, c'est on a pris cette décision. Quelles sont les évaluations socio-économiques de ces 10 projets qui permettent de démontrer que, pour la collectivité, c'est-à-dire en intégrant toutes ces externalités sur les émissions de gaz à effet de serre, finalement, en effet, ces projets sont justifiés. Je pense qu'elles n'existent pas. Et le problème, je dirais, de l'investissement, etc., dans la SNCF, c'est celui-là. C'est que, d'accord, sur le principe, oui, on peut, mais après, quand il s'agit d'évaluer des projets un par un, etc., on s'aperçoit que non, investir dans le ferroviaire n'est pas toujours forcément une bonne idée. Et aujourd'hui, on paye des erreurs qu'on a faites dans le passé. Moi, quand j'étais à la Cour des comptes en 2008, j'ai écrit un rapport sur l'infrastructure ferroviaire où je disais la SNCF fait des erreurs. Elle fait des erreurs parce qu'elle ouvre des lignes à grande vitesse qui, pour le moment, ne sont pas rentables parce que le trafic n'est pas encore là, alors qu'à côté, elle omet, en fait, d'entretenir le réseau de proximité et aujourd'hui, on paye ses erreurs. C'est-à-dire, on paye ses erreurs parce qu'on est obligé de maintenir, et ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui, de remettre à niveau le réseau de proximité ROR et Transilien, parce qu'on a fait des choix d'investissement mauvais dans le passé. Donc, en fait, moi, je suis d'accord, d'un point de vue théorique, on peut, maintenant, moi, je suis aussi convaincu que derrière ces chiffres de 18 milliards, il y a des erreurs de gestion.
Il est des lignes TGV qui, même lorsque les trains sont remplis à 100%, ne gagnent pas d'argent. Qui veut réagir donc à ce chiffre?
Moi, j'aimerais bien réagir.
On garde un peu de temps pour le protectionnisme.
J'aimerais bien réagir parce que je suis d'accord partiellement avec ce que vous disiez. La politique de la SNCF ces dernières années, ça a été les grandes lignes, le TGV. Alors qu'on a besoin pour la transition écologique, la transition énergétique, de rénover et de réouvrir beaucoup de petites lignes. Le maillage ferroviaire était beaucoup plus important en France il y a 30 ans. On aurait mieux fait d'entretenir ça plutôt que de favoriser la politique du tout TGV. Pourtant, moi, je fais partie des gens qui prennent très souvent le TGV. C'est pas dans mon intérêt personnel. Et puis par ailleurs, combien ça coûte? Effectivement, la vraie question, c'est combien ça rapporte. Et monsieur a raison de dire que c'est très difficile à estimer. Par contre, quand vous allez à l'étranger, là, allons voir effectivement ce que font nos voisins. 80% des Britanniques sont pour le retour dans le giron ferroviaire des compagnies de transport ferroviaire, parce que c'est un
désastre. Dans le giron de l'État, vous voulez dire?
C'est un désastre.
C'est le cas en Grande-Bretagne.
C'est le chaos. C'est jamais à l'heure.
Ça a été très largement renationalisé en Grande-Bretagne.
Oui, mais d'accord, mais enfin bon, quand même, c'est quand même un désastre. Où le système, j'ai vécu un an en Irlande, c'est même pas la peine d'essayer de prendre le train, quoi. C'est très cher, ça marche pas, on n'arrive même pas.
Mais je vous dis pas que tous les systèmes ferroviaires fonctionnent très bien.
Donc le système ferroviaire français fonctionne assez bien. Ceci étant dit, oui, effectivement, il y a un sujet de cette politique qui a été orientée vers les grandes lignes, alors qu'on a besoin des petites lignes. Et effectivement, si on veut réduire drastiquement la consommation d'essence, la pollution, etc., il faudra réouvrir ces petites lignes. C'est très difficile d'estimer combien ça rapporte. Alors, c'est moins compliqué d'estimer combien ça coûte.
Bon, je sais pas si vous voulez réagir de Christian Couillot.
Oui, on a parlé de l'école, on a parlé de la santé, maintenant on parle de la santé. Le sujet, c'est à chaque fois comment c'est géré. Est-ce que ça coûte quelque chose? Somme toute, c'est normal. Enfin, c'est un service public, donc est-ce qu'on doit contribuer à le payer? Moi, ça me choque pas, bien évidemment, mais est-ce que la manière dont c'est géré est la bonne? Alors, il y a le choix d'infrastructures qu'on a donné. Au passage, les lignes TGV, elles ont été faites parce que c'est les élus locaux qui les ont demandées, Donc, voilà. Mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Par contre, je retiens ce qu'a dit François. Il y a 3 milliards sur les les retraites quand même, quoi. Je vais repasser.
Ça, c'est un sujet. Hein, oui. Voilà. Ah oui, vous avez, je crois, 145 000 cheminots pour 230 000 pensionnés. Voilà,
3 milliards. Hein,
y bon. Compris les pensions de réversion. Voilà. Ah ben, il y a un déséquilibre.
Donc, c'est là aussi, en termes de gestion et d'égalité des choses et des traitements de retraite entre le privé, il y a un décalage qui n'est pas normal.
J'reste avec vous, Christian Poyot, sur cette visite d'Emmanuel Macron. Il entame une visite de 3 jours aux États-Unis. Il compte bien essayer d'obtenir, alors je ne me demande quoi, mais d'obtenir des ouvertures de la part de Joe Biden sur l'ensemble de cette panoplie de protectionnisme que, alors là, les Américains sont en train de baisser le rideau. Avec d'abord cette loi anti-inflation de 349 milliards de dollars qui commence à être dégainée au mois de janvier. Et puis là, on a appris il y a 48 heures que, exit les équipementiers chinois télécom.
C'est pas comparable, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Mais c'est pas du tout la même chose. Mais ce sont dans les deux cas des actes de protectionnisme. Qu'est-ce que ça vous.
Mais c'est pas une nouvelle, Nicolas. Enfin, si vous voulez. Okay, là, c'est peut-être plus dur
là,
parce
c'est
que
lourd,
l'inflation,
là.
C'est lourd, etc. Mais est-ce que les Américains ont toujours cherché à défendre leurs intérêts? Bah oui.
Bah oui.
Et est-ce que c'est anormal? Bah non. Et est-ce que les Européens doivent faire la même chose? Bah oui.
Donc tout le monde se met en contradiction avec les règles de l'OMC que tout le monde a adopté.
Laissez-le finir, Daniel. Le sujet, c'est moi, je ne suis pas pour le protectionnisme, c'est un mot qui est négatif parce que c'est on n'ouvre pas les sujets, etc. Par contre, le pendant d'un commerce mondial équitable, si je veux dire, c'est que la compétition ne soit pas asymétrique. Donc on ait les mêmes règles de part et d'autre. Hein. Alors que ça soit des règles liées à la protection de l'environnement qui est majeure sur le carbone, sur la production. Que ça soit sur la fiscalité, etc. Force est de constater que l'Europe se comporte depuis très longtemps comme un bisounours qui dit tout le monde doit être pareil, etc. Moi, je considère que les Américains, ok, peut-être que là, ils poussent un peu plus le curseur, mais oui. Ils ont toujours été comme ça. Somme toute, c'est simplement l'Europe qui ouvre les yeux et qui dit dis donc, les autres, ils font pas comme nous.
Oui.
Ce qui est hallucinant, c'est que cette position, elle n'est pas partagée en Europe, si vous voulez. Hein. La France, là-dessus, est quand même assez moteur sur le point. Les Allemands, on voit en ce moment, c'est quand même un petit peu mou du genou, si vous me permettez cette expression-là. Puis après, des pays comme les Pays-Bas, parce qu'ils ont intérêt plus fort en termes de commerce, qui sont contre le sujet. Mais moi, je ne suis pas choqué de ce que fait les États-Unis. Le fait de ne pas être choqué ne veut pas dire qu'il faut aller lutter, c'est pas le bon terme. En tout cas, il faut aller contrer le sujet. Voilà. Mais dans quel monde vivons-nous? Chacun défend ses intérêts. C'est un équilibre entre ses intérêts et l'ouverture du marché. Donc, bon sang que l'Europe se réveille et qu'on mette en place un Buy European Act. C'est assez évident.
Danny Lang.
Alors, pour une fois, j'ai le plaisir infini d'être plus qu'en accord avec quelqu'un du MEDEF. Franchement,
mais
bon,
oui,
ça m'arrive.
Le mot souveraineté au MEDEF n'est pas du tout un mot.
Et d'ailleurs, j'irai plus loin que vous. Quand on regarde l'histoire américaine, mais c'est l'ADN des États-Unis d'Amérique.
Ça me fait marrer quand on dit que c'est un pays ultralibéral.
Parce qu'ils disent aux autres ouvrez-vous sans le faire. Enfin, c'était. Vous savez qui a théorisé le protectionnisme américain? C'était leur premier ministre de l'économie, c'était Hamilton. Qui a théorisé le protectionnisme américain comme faisant partie de leur stratégie industrielle. C'est de là qu'est partie d'ailleurs la guerre de sécession. C'était pas la question de l'esclavage. La question de l'esclavage, c'est venu après, quand il a fallu justifier cette guerre. Ce qui a justifié, le Nord était protectionniste et le Sud était libre-échangiste. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Ensuite, il a évidemment fallu trouver d'autres prétextes pour mener une guerre, parce qu'on mène pas une guerre là-dessus officiellement. Mais en tout cas, c'était le... Et les États-Unis ont toujours été un pays protectionniste. Depuis Trump, ils renouent avec cette tradition très ancienne, mais ils ont toujours eu cette attitude disant ouvrez-vous.
Et alors, Dani, pour avancer, l'Europe doit effectivement faire.
Mais on est naïf, mais bien sûr que oui.
D'accord.
Mais bien sûr que oui. Faut arrêter, au nom de l'idéologie du libre-échange, de faire les bisounours, comme vous disiez.
François Eccal, votre avis là-dessus?
Relativiser ce que disent les deux autres. Moi, je suis très inquiet par cette montée du protectionnisme. Parce que je pense que le problème du protectionnisme, c'est que vous dites, oui, les autres sont protectionnistes, donc il ne faut pas qu'on soit naïf, donc il faut qu'on fasse la même chose. Ce à quoi les autres répondent, mais vous prenez des mesures protectionnistes, on va augmenter nos mesures d'aide, de droits de douane, etc. Donc on rentre dans un cercle vicieux qu'on a connu dans le passé, dans les années 30, etc. Et lorsque, comme ça, le protectionnisme monte un peu partout, les perdants, c'est les petits. Hein, c'est les petits pays. Parce qu'un pays comme les États-Unis pourrait très bien vivre en restant isolé du monde. Ils peuvent tout faire aux États-Unis. Ils ont toutes les matières premières, ils ont toutes les ressources, ils sont suffisamment grands pour produire de tout. un petit pays, ne serait-ce qu'un pays comme l'Autriche, le Portugal, etc., ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Il est obligé de se spécialiser. Et si tous les autres pays ferment leurs frontières parce que, à force de représailles dans tous les sens, on finit par monter des barrières protectionnistes partout, les perdants dans cette histoire, ce sont les petits pays de l'Europe, mais aussi les petits pays en développement. Les petits pays en développement qui n'auront plus de marché, qui ne pourront plus exporter. Donc moi, cette montée du protectionnisme, elle m'inquiète beaucoup.
Mais du coup, la solution crève pas les yeux. Aller devant l'organe de règlement d'indifférents de l'OMC, c'est... Voilà,
j'ai la solution.
Je voudrais compléter mon propos. J'ai jamais dit que j'étais pour le protectionnisme. Moi, je suis pour le libre-échange.
Mais pour la réciprocité.
Voilà, on est dans un libre-échange ne peut fonctionner qu'avec des choses non pas asymétriques, si j'ose dire. À partir où vous avez en face de vous un État qui, lui, prend ipso facto des mesures de protection et qui sont asymétriques, là, il faut chercher à le contrer. Et moi, je le vois plutôt... Alors, tout ça est très complexe, mais non, dire, ok, vous mettez des barrières, je vais mettre les mêmes. Ça sert peut-être à rien. Donc, on va peut-être revenir en arrière. Donc, est-ce que le protectionnisme en lui-même est une bonne chose? Non, certainement pas. De toute façon, les États-Unis, où ils sont peut-être à peu près autonomes, mais encore peut-être pas surtout. Le libre-échange, c'est quand même ce qui a fait le développement du monde, le recul de la pauvreté d'une manière générale.
Je vous conseille une lecture.
Non, mais attendez, donc je finis mon propos.
Terminé, on a 2 minutes 20.
Moi, je suis pour le libre-échange, je suis simplement qu'il soit pour des règles identiques pour tout le monde, et à partir du moment où un pays ne se comporte pas de manière satisfaisante, on va dire ça comme ça, il faut savoir y apporter les bonnes réponses et pas être naïf. Voilà, c'est ça mon point.
En réponse à ce que vous disiez, il y a un très beau livre de Ewung Chang, hélas il n'a pas été traduit en français.
Qui est-il, pardon, parce que je vois pas.
Ewung Chang, qui est économiste à Cambridge et qui a écrit un ouvrage pour montrer que toutes les nations industrialisées, la France, les États-Unis, enfin toutes les nations industrialisées, la Suède, se sont développées à l'abri de barrières protectionnistes. Et une fois qu'elles s'étaient développées, elles ont dit ouvrez-vous aux nations plus faibles, dont vous parliez tout à l'heure, qui n'étaient pas en mesure de le faire et qui ont dû le faire. Le bouquin s'appelle Kicking Away the Ladder. Donc on a pris l'échelle protectionniste pour monter et après on l'a enlevé aux autres pays. Moi je ne suis pas naïf sur ce genre de sujet. Le protectionnisme, c'est ça qui a permis de se développer. Et effectivement, ça ne sert à rien de s'ouvrir quand en face ça se ferme. Par ailleurs, enfin, avec la transition écologique, on devra quand même relocaliser un certain nombre d'activités et on devra mettre en place des barrières protectionnistes.
Alors moi, je réagir sur un autre sujet qui est la Chine, finalement. Parce que,
en une minute, ce sera le mot de la fin.
Est-ce qu'il y a ce libre-échange qui, quand même, s'est ouvert depuis 20-30 ans, de manière très générale, on espérait que la Chine, avec l'entrée dans l'OMC, allait devenir une démocratie, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais on voit quand même les répercussions qui se passent en ce moment. Enfin, la confrontation, je préfère utiliser le mot confrontation que guerre ou quoi que ce soit, parce qu'il ne faut pas rentrer dans cette logique-là, mais la confrontation avec la Chine, effectivement, le grand enjeu du 21e siècle, en espérant qu'on arrive à trouver des solutions tout à fait ouvertes. Mais on voit ce que ça donne sur la population. Maintenant, la population chinoise, elle communique beaucoup plus. Elle est éduquée, le mot n'est pas très beau, j'en conviens, mais en tout cas, elle est beaucoup plus au fait de voir ce qui se passe. Et on voit que la Chine, aujourd'hui, va avoir quand même un sujet très très lourd à traiter sur cette ouverture de la population. Et ça, c'est quand même lié, d'une manière ou d'une autre, au libre-échange, à la communication entre les pays. Donc, il faut rester dans une logique d'échange et de commerce mondial. Après, chacun à ses niveaux. Le tout, c'est jusqu'où on monte la barrière, quoi, si je veux dire. Voilà.
Mais ça a des impacts positifs. Dans le cas de la Chine, il y a quand même des camps de travail où les gens travaillent dans des conditions pas possibles.
La pauvreté en Chine a reculé de manière phénoménale.
Oui, mais ça ne justifie pas.
On a terminé. On voit aussi ce qui se passe dans un pays qui n'a pas d'État-providence lorsque ça dérape. Voilà. Et ce n'est pas notre cas, par exemple. Bon, merci d'avoir été là. François Eckhall, Dany Lang, Christian Poyon. On se retrouve demain à 9h.